bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec Leïla Kamouroudadi, Daniel Morin,
bravo Leïla,
Pierre Bourguiz, Frédéric Siris,
bonjour.
Algour,
bonjour,
Tanguy Bassureau et nos invités, bonjour. Isabelle Carré, Bernard Compan. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour Bernard, bienvenue.
Bonjour.
Tout va bien?
Oui.
C'est gentil de venir. Après avoir reçu les applaudissements, parce que c'est un succès au Théâtre de la Renaissance, et on est ravis pour vous. Ça démarre à peine, et ça cartonne déjà. Ça s'appelle La Dégustation, et dans tous les sens du terme d'ailleurs.
Tout le monde déguste.
Ouais, tout le monde déguste, que ce soit dans la salle sur scène, et que ce soit Isabelle Carré dans sa, dans son personnage, avec cette histoire d'un caviste bourru, j'ai bien dit.
Bourru.
Joué par Bernard Campan, et on va dire quoi, cette généreuse, naïve cliente qui vient pour prendre un verre, qui a la main sur le cœur, qui aide le secours populaire et tous les nécessiteux,
voilà,
et qui est célibataire.
Dans l'associatif, mais célibataire et...
Bourgeoise un peu coincée.
Oui, un peu coincée, mais alors l'alcool aidant, une vinos veritas, ça va mieux.
Ça désinhibe.
Et grâce à ce merveilleux personnage joué par Mounir Amamra, ils vont pouvoir se rencontrer.
Il va être le trait d'union.
C'est ça, le trait d'union.
Le trait d'union d'un cambriolage dans la bijouterie qui est juste à côté, et puis d'une main tendue pour l'intégrer dans la société via un stage dans la cave. On va en parler, dans la cave, chez le caviste. C'est mieux le caviste.
Un stage dans la cave, il y en a qui
je vais te parler de ces week-ends, Daniel. Tiens bien, je fais un stage dans la cave.
Mais personne n'a répondu à mon annonce, c'est bizarre en même temps. Allons-y, jouons et essayons de deviner ce qui se passe dans la vie d'Isabelle Carré. De quelle manière Isabelle apprend-elle ses textes?
Elle apprend par cœur, elle lit beaucoup de textes.
Non, les yeux fermés.
Non.
Elle écrit, elle recopie.
Dans la baignoire.
Exactement. Ouais, vous l'aviez déjà expliqué ici, vous réécrivez en fait.
Je réécris tout.
Mais,
ça, je fais ça depuis le bac.
Main droite, main gauche.
Droitière, oui, mais je réécris plusieurs fois de suite, et du coup ça reste à vie.
Et vous,
c'est assez impressionnant.
Ah, génial.
Ouais. Ah oui, vous avez encore vos Molières en tête, je me souviens, on en avait parlé.
L'école des femmes, j'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui rencontra ma vue.
Pardon, Isabelle, c'est un don. S'il suffisait de réécrire pour savoir aussi bien, vous avez ce don d'une mémoire infaillible.
Je pense que c'est un muscle, en fait.
Ouais.
Ça s'entretient, quoi.
Et puis, vous avez trouvé votre technique, parce que certains ont une mémoire photographique, d'autres, elle est plus liée à l'oreille.
D'autres pas de mémoire.
D'autres pas aussi. mais si, forcément.
Quel est votre truc, Bernard Campan?
J'en ai pas. Je m'épuise à chercher un truc, et puis c'est toujours approximatif. Et moi, je pensais à ça. C'est vrai que Isabelle, depuis, tu as 17 ans, tu travailles des textes, en fait. Peut-être même avant. Hein. Et moi, j'ai pas beaucoup travaillé de textes classiques. En fait, les inconnus, on écrivait nos textes, donc on redisait nos textes approximativement. Donc je me trouve dans un approximatif.
C'était les vôtres, vous pouviez ne pas les
contre lequel je lutte. Quand on revient à la phrase, la plupart du temps, quand on revient à la phrase elle-même sans modifier, c'est toujours mieux. Alors je fais beaucoup d'efforts pour revenir à ça, mais moi j'oublie mes textes. Une fois appris, c'est comme le bac.
Ça disparaît.
J'ai passé mon bac et j'ai tout oublié.
Un poste magique, quoi. Voilà.
Bernard et son frère ont suivi des cours du soir, mais pour quelle raison?
Parce que pour rattraper le retard.
Et il fallait les occuper.
Non.
Ils avaient du mal à se lever.
Non.
Pour rattraper le retard.
Non plus.
Irrattrapable.
Ah bon.
Ce retard. Non, non.
C'est votre grand ou petit frère?
C'est mon grand frère.
Grand frère.
Parce que la prof était jolie. Parce qu'il y avait des
cours du soir.
On sait jamais.
Pour apprendre à lire.
Non.
Ensemble au cours du soir?
Oui, oui, non, tous les deux. Ensemble.
Ah, parce que le grand frère devait garder le petit?
Non.
Parce qu'ils avaient un projet particulier
ensemble. Parce qu'ils étaient nuls en maths?
Non.
Ça oui, mais bon.
Parce qu'ils faisaient des cours de musique, tous les deux.
Non, non, ils avaient tous les deux besoin de la même chose, alors qu'ils n'étaient pas au même niveau.
De méthode?
Une orthophoniste.
Pas loin, je vais prendre ça. Ouais, c'est un problème d'accent du sud.
Ah.
C'était pour effacer l'accent du sud-ouest.
Ouais. Les cours du soir.
Ouais, comme on avait l'accent du sud-ouest.
Ouais,
mais mes parents estimaient que ça pouvait être ça pouvait être handicapant, donc on avait des cours après l'école qui voilà pour je me souviens de la haute montagne et la haute du Père Noël. La haute montagne et la... Non, la haute montagne.
Et Guillermo, t'étais disponible les soirs?
C'est parce que, moche. Pour l'articulation, il est mal. Il est
parfait. C'est vrai, un orthophoniste, ce qu'il lui faut, c'est un prêtre.
Un exorciste.
Je suis là.
Pouvez-vous finir la citation d'Isabelle Carré? On peut aimer la même personne toute sa vie, mais...
On peut pas tromper mille fois.
Mais pas tous les jours.
Exactement. Mais pas tout le temps.
Mais pas tout le temps. Oui, bah oui, l'amour, ça fluctue. C'est pas, on n'est pas tout le temps à 200%.
C'est violent comme phrase.
Ah, mais non, c'est honnête.
C'est idéaliste, réaliste.
Mais non, mais quand tu aimes.
Mais après, on le re-aime. C'est ça qui est chouette, c'est de re-aimer tout le temps.
Il y a des jours où on aime moins.
Mais tu aimes à valeur constante, toi, tout le temps.
Retomber amoureux.
Non. Moi, je pense que aimer, il y a une espèce de voilà, il y a un matelas d'amour.
C'est joli.
La chanson de Pascal Obispo.
On voit tout de suite la préoccupation principale de Nagui.
Claudio Capéo.
Le matelas, le lit, direct.
Pierre Viguier.
Ah, le poète.
Non, mais quand vous dites ne pas aimer tout le temps, ça veut pas dire désaimer, ça veut dire aimer un peu moins.
Voilà, c'est ça.
Ah, pardon, d'accord.
Ça fluctue, quoi. C'est comme une courbe statistique, ça.
Il y a toujours. Ah, t'imagines, ça c'est mieux, ça peut-être.
Ça évolue.
Mais on peut désaimer un petit peu.
Voilà, désaimer, puis re-aimer. Ouais, voilà. Retomber amoureux de son mari, retomber amoureux de sa femme, c'est beau, ça.
D'accord, très bien.
On peut détester, même.
C'est Richard Anthony qui avait chanté ça. Qu'est-ce qui m'arrive, je suis amoureux de ma femme.
Voilà, grand-père, il voulait se faire pardonner.
Qu'a dit, bon, ça sent, oui, c'est ça, exactement. Qu'a dit Bernard Campan au philosophe Alexandre Jolien?
Je t'emmerde. Dégage.
Non, justement, c'est...
Reviens. C'est son super ami.
Aime-moi.
Il lui a...
Tu dis quoi?
Aime-moi.
Pas loin.
Apprécie-moi, respecte-moi.
Non.
Parle-moi. Non. Écris-moi. Téléphone-moi.
Renvoie de l'argent.
Tu es mon âme sœur. Il y a un truc d'un lien.
Rembourse-moi.
Oui, un truc d'âme sœur.
Un truc d'âme sœur de lien assez fort.
Tu es le frère.
Tu es mon frère.
Non.
Tu es ma sœur.
Non.
Sois mon frère.
Je suis ton père.
On vient d'en parler.
Tu es mon amour.
Oui. Oui, je t'aime.
Je t'aime. Ah oui, d'accord.
Vous l'avez dit. J'aurais pas su, mais bon, voilà, oui, oui.
On était à deux doigts du matelas de l'amour, là aussi.
C'est Alexandre. C'est lui. C'est lui qui le raconte dans une interview. Il dit, il nous arrive de nous dire
ah oui,
je t'aime.
Bah oui.
Et que sa femme a entendu un message de vous sur son répondeur qui finissait par je t'aime.
Oui, bah oui.
C'est fort.
Parce qu'on s'aime. Voilà.
Et comment définir cet amour? C'est
une amitié. C'est Bernard qui a demandé à le rencontrer.
C'est une amitié.
C'est toi qui as demandé à le rencontrer?
Oui, j'ai cherché à je l'ai contacté après l'avoir vu dans une émission télé. Mais c'est un peu ce que disait Alexandre. C'est un lien d'amour, mais c'est re-aimer aussi. Parce que, avec Alexandre, on a nos hauts et nos bas aussi dans notre amitié. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de l'étrangler. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments, on a eu nos moments difficiles et on en aura d'autres certainement. Mais savoir qu'il y a quand même ce lien qui est là d'amour indéfectible avec ses hauts et ses bas, c'est notre amitié, quoi.
Sacré Alexandre Bénal, est toujours
un Isabelle, non, Julien, Isabelle Carré, à quelle occasion peut-elle prononcer le mot schluck?
Pour dire un gros mot?
Oui.
Non.
Non.
À table.
Presque.
Ouais.
En sortant de table.
Non, à table.
Quand c'est bon, c'est schluck.
Non.
Quand c'est mauvais.
Non. Ça rejoint le propos de la pièce.
Bon appétit, Schluck.
Santé.
Pour trinquer.
Mais bah, d'où vient ce Schluck?
Parce que j'en avais un peu marre de Chine.
Ah non, vous l'avez inventé.
C'est voilà. Contre les Chinois. Oui.
Mais vous savez que c'est exactement comme ça que sont nés des Schtroumpfs. C'est-à-dire que, ne sachant pas comment dire machin, bidule, chouette, Peyot, le papa des Schtroumpfs, a dit, au lieu de dire passe-moi le sel ou passe-moi le poivre, il dit passe-moi le Schtroumpf, qui est là. Et c'est comme ça que le nom de Schtroumpf, je me tourne vers Albert Algou, docteur S, bande dessinée. Tu acquiesces ou pas?
Je suis un grand spécialiste des Schtroumpfs.
Ah, t'as pas?
Oui, non, c'est vrai. Si, j'aime beaucoup.
Non, mais que le mot comme
ça.
C'est
un peu misogyne, le Schtroumpf, quand même.
Oui, enfin, c'est
pas la question. On parle de Tintin tout de suite ou pas?
Non, je pense à la Schtroumpfette. Regardez comment elle est créée.
Et la Castafiore.
C'est un condensé. Ah, mais c'est. La Castafiore n'est pas une femme, c'est un castrat. Donc, vous faites erreur, là, Nagui.
Non, mais Tintin, en revanche, c'est son chien. Bon.
Voilà. Il paraît que Milou, c'est son fils.
C'est sa chienne.
Allez, dernière question. Bernard Campan n'est pas forcément abonné aux bonnes notes à l'école. Pourtant, un jour, sa professeure de français lui a noté 20 sur 20. Mais pour quelle raison?
Récitation.
20 sur 20.
C'est le seul 20 sur 20.
Ah, c'est le seul 20 sur 20 que j'ai
eu. Ah ouais, il compte celui-là.
C'est quoi, une rédaction, quelque chose d'un peu fou,
Alors, il a écrit en effet quelque chose.
Un poème.
Exactement.
Bravo.
Vous, ah ouais. Celui-là, vous l'avez pas oublié quand même, ce poème, Bernard.
Alors, écrivez un jour, la prof dit, écrivez ce que vous voulez, que sous la forme que vous voulez. Ça, je me l'avais dit, ça peut être une bande dessinée, etc. Et j'avais déjà fait une bande dessinée avec un copain dans le cadre de l'école. Et puis elle me dit, ça peut être une poésie, ce que vous voulez. Et j'entre chez moi, je demande à ma mère qui était prof de français. Je dis, maman, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire une poésie? C'est quoi les règles?
La règle, oui.
De la poésie.
Des strophes, des alexandrins.
Et ma mère a l'intelligence de me répondre, ah ben peut-être que le propre de la poésie, c'est qu'il n'y a pas de règles, un truc comme ça. Mmh. Oh, ça c'est génial. Alors, tac, et je suis parti. Et du coup, j'ai écrit une poésie, puis j'ai montré à ma mère, ah c'est super, une deuxième. Donc j'ai donné ces deux poésies, et j'ai eu deux poésies dignes d'un vrai poète, 20 sur 20.
Waouh,
mon 20 sur 20.
Et pourquoi avez-vous abandonné la poésie?
Mais il n'est pas trop tard pour s'y remettre?
Pour les publier, peut-être?
Non.
Pourquoi?
Non, parce que.
Ça,
mais
c'est
bon,
la pudeur, ça.
Mais j'ai toujours eu un rapport à l'écriture.
Mais Isabelle écrit, elle peut vous donner des conseils.
Oh, je ne me permettrai pas de donner le moindre conseil, mais juste un seul,
bien.
C'est qu'il n'est jamais trop tard.
Ouais.
Oui, vous le prouvez en plus. Voilà. Vous le prouvez. Isabelle Carré, Bernard Campandeau, au théâtre avec la dégustation. Vous êtes tous les deux célibataires, tous les deux avec des galères de vie personnelle, et vous allez vous retrouver. Alors, le vin est un prétexte. C'est une espèce de carpe diem, cette pièce, Isabelle.
Oui, c'est un ode à la rencontre et à la seconde chance aussi.
Et pas laisser passer la chance, ouais, savoir la.
Grâce effectivement à un troisième personnage qui nous aide à créer le lien entre nous, parce qu'au départ c'est pas gagné. C'est un petit peu comme Sérénade à trois de Lubitsch. Et ces personnages ont tous en fait pourraient au départ ressembler un petit peu à des clichés, puis finalement petit à petit on découvre qu'ils sont bien autre chose que ce dont ils ont l'air. Ils ont tous un secret aussi.
Ils sont tous seuls, mais y compris le troisième personnage qui sera votre trait d'union. Ce sont trois solitudes qui viennent se rencontrer dans votre boutique.
Et même le personnage d'Éric Vélard, par exemple, qui multiplie les conquêtes, finalement, il a aussi un secret. Ils ont tous ce point commun.
Il est élu. Alors lui, c'est le voisin libraire qui a l'avantage d'être vraiment le mur d'à côté. Le mur est très très fin, donc dès qu'il y a une bouteille qui est débouchée chez le caviste, il rapplique en disant, il y a une dégustation. avec un début, une espèce d'arrogance de beau gosse, et qui va, au fur et à mesure que la pièce évolue, et c'est ça qui est très fort dans vos personnages, il va devenir extrêmement touchant. Et c'est le cas aussi de ce caviste bourru. On l'aime pas beaucoup au début, et finalement, avec ses vannes, avec sa réaction, on sent qu'il protège une sensibilité dingue.
Oui, c'est ça, c'est un écorché vif, c'est ça, il a un secret douloureux et qu'on découvrira dans la pièce. Mais c'est la seconde chance que dit Isabelle, j'avais pas pensé à ça. Chacun va avoir droit à sa seconde chance.
Et le personnage d'Éric Vélard le dit dans la pièce.
Hortense, c'est ta chance.
Mais non, c'est l'idée de deuxième chance qui me.
Pardon.
Non, je t'en prie, Nagui, quand tu veux, tu reviens.
En tout cas, vous incarnez une sorte de misanthrope. Enfin, au début, on a ce caviste qui peut pas, qui a pas vraiment le droit de beaucoup boire. Derrière, c'est un enfer d'être.
Il boit beaucoup, mais
son médecin lui rappelle que c'est pas bon pour lui.
Il a des grands verres pour la dégustation. Voilà.
C'est génial.
Voilà, il est même un peu alcoolo, faut le dire. Et voilà, il doit moins boire, mais bon, voilà, tant qu'il porte en lui ce secret, cette douleur, ben, il se rattrape sur l'alcool, ce qui arrive souvent. Ah, une petite danse, Isabelle.
Ça commence aussi parce que la musique vous lit.
Il y a beaucoup de jazz dans la pièce, et du rap aussi.
Oui, notamment pour le final qui est formidable. J'adore votre manière de saluer. Ça, il faut vraiment, c'est indescriptible. Allez les voir pour l'apprécier. Y compris.
Tout est dans les saluts, dans cette pièce.
Non,
surtout restez jusqu'à la fin.
Voilà, c'est ça. Qu'à la fin d'ailleurs.
Non, mais on peut se demander, vu la danse endiablée d'Isabelle, si c'était du vrai ou du faux vin pendant la pièce. Ça, on se pose la question.
Je vous laisse deviner.
Même là, avec le Sidney Bechet, qui est la première discussion que vous échangez avec votre cliente, vous mentez. C'est-à-dire, vous aimez le jazz? Non, c'est la radio.
Ouais.
Et c'est un mensonge. On ne sait même pas pourquoi. Il ne veut même pas s'ouvrir. Quoi.
Il est verrouillé, quoi. Il est verrouillé, cet homme-là. Et il est cette femme qui l'intrigue, en fait. Moi, je sais que chaque soir, c'est comme ça que je la regarde. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau-là? Cato, mais en même temps, avec des espèces de fulgurances qui traite sa mère de chiante, enfin bon, elle est incernable,
elle a pas de filtre,
incatalogable.
elle vient pour acheter un vin. On peut oui. Pardon, on peut le dire. Oui, oui. Elle vient pour acheter un vin. Le vin, le dernier vin qu'elle a bu et qu'elle a aimé, c'est le vin de Metz.
C'est un
Saint-Julien 2000.
Je vois que t'as noté. C'est une bonne année en plus.
Ouais. Ouais. Et elle va acheter du vin pour ses SDF parce qu'elle s'occupe de SDF. Elle fait un repas de temps en temps avec eux. Et elle veut leur offrir un bon vin.
Avec le secours populaire, c'est ça.
Donc c'est pour le caviste, c'est
surprenant.
Personnage étrange, quoi. Et c'est ça qui déjà crée une accroche. Quoi.
L'écriture d'Yvan Calberac est formidable parce que la pièce est on va dire extrêmement naturel. C'est une scène qui pourrait être comme ça, une scène de la vie quotidienne, avec ces trois solitudes qui se rencontrent, avec des vannes, avec de l'humour. Il y a un côté très pince sans rire.
Les gens rient vraiment à gorge déployée, mais ça reste bienveillant, ça reste...
Alors je vais reprendre votre expression ouais. À gorge déployée, puisque justement, vous aussi, il y en a des vannes qui sont faites. Vous n'avez pas eu peur de ces vannes qui ont une double lecture.
Une double lecture, mais non, c'est même moi qu'on ait proposé quelques-unes, j'avoue. J'avais très envie que
je veux pas savoir laquelle.
Ouais. La meilleure.
Vas-y.
Faut le dire maintenant. Faut rentrer dans le détail. C'est-à-dire que quand on déguste du vin, il y a deux écoles.
On recrache.
Et c'est les autres.
Voilà. Moi, j'avale, hein, vous êtes prévenus.
Voilà, c'est la vanne en question qui est dans la pièce. Et qui fait exploser le théâtre parce que, mais je vais aller plus loin, on ne s'attend pas à ce que vous, Isabelle Carré,
mais oui.
Vous fassiez ce genre de vanne.
Mais c'est ça qui est joli dans ce personnage d'Hortense, c'est que elle est à fond en fait. Elle est et avec l'alcool, son impatience, on va dire, monte d'un cran. Et c'est le feu sous la glace, quoi. Et moi, j'adore
exactement.
Ce genre de personnages qui sont, ouais. Voilà, qui c'est au-delà des apparences et ils sont tous comme ça, en fait.
On attend, ce qui est pas, vous n'avez pas, on attend qu'elle défasse ce chignon et qu'elle se lâche, quoi.
C'est un petit ça. Peu ça qui ouais. Se passe quand même
ouais,
après
exactement.
Dans
exactement.
La scène suivante.
Et il y a vraiment deux pièces. Alors là, soyons très clairs, il y a deux temps dans cette pièce. Il y a vraiment un switch qui va
après, il y a beaucoup d'émotions. Et moi, c'est ça que j'adore dans les comédies. C'est pour ça que quand Yvan m'a proposé cette pièce, j'étais vraiment super emballée, outre le fait que je retrouvais Bernard Campan.
Ouais, c'était un moment.
Après ce souvenir
après
des belles choses.
Le film de
on
ne
s'avait pas retravaillé ensemble depuis toutes ces années, donc c'était vraiment un beau cadeau. Mais c'est aussi ce mélange de comédie et d'émotion. Moi, j'adore rire et pleurer à la fois, quoi. C'est ça que je cherche, à la fois au théâtre et au cinéma, que les émotions soient mélangées et qu'on...
Et ça donne à réfléchir aussi. C'est une pièce qui,
oui,
on sent de là.
Il y a une profondeur,
là,
ouais, aussi.
On a envie de continuer de discuter avec ses amis d'échanger.
Ça pourrait être juste un moment léger, joyeux, comme ça, où ça donne envie d'aller vers les autres. Mais il y a aussi quelque chose de plus touchant et de plus profond.
Très joli casting autour d'Isabelle Carré, de Bernard Campan, Mounir Amamra qui fera parler de lui, Eric
oh oui.
Vielard que l'on aime beaucoup ici, il est toujours parfait ouais. Dans ses rôles, Olivier Cavry aussi,
ouais. qui envoie
bien quoi,
ouais,
qui envoie
ouais,
bien
ouais.
Vraiment. Et tout ça avec la plume d'Yvan Calberac. Bref, c'est une pièce qu'il faut absolument que vous voyez. C'est au Théâtre de la Renaissance et c'est un succès. Donc prenez réservez à l'avance. Il est déjà prévu une tournée. Son mauvais jeu de mots avec le caviste,
ouais,
évidemment.
Alors, moi j'aime bien rester près de mes enfants. Alors, je suis pas une bonne tourneuse.
Tourner avec vos enfants.
Je suis pas une bonne tourneuse. Deuxième van, c'est parti. En tout cas, venez donc à Paris la voir au théâtre de la Renaissance. Ouais, il faut suivre Isabelle Carré.
De plus en plus cabreux, quand même. Plus en plus.
On l'a prévenu, il y a un matin d'amour.
Oui, Nangui.
Cette pièce est un succès annoncé. Pas uniquement pour le vin de Metz.
Mais bien sûr, mon cher Nangui. Bon, certes, cette dégustation fleure bon le romantisme, hein, le carpe diem, vous le disiez tout à l'heure, mais ce n'est pas de la tisane, de la bibine insipide qui nous est proposée là. Il s'agit en effet d'un cru théâtral charpenté, gaulayant et subtil à la fois, pétillant de répliques savoureuses ou corsées, de dialogues tire-bouchonnants. Bref, un excellent cru qui a du corps et de la finesse, de l'ardeur aussi, et même de la cuisse, de la chair, de la fesse.
Calmez-vous.
Oui, je sais, Nangui, je ne dois rien divulgâcher. C'est dur quand même. Bref, tout cela est servi par des comédiens au talent enivrant, dont Isabelle Carré, coco Isabelle, et Bernard Campan, coco Bernard, tu es là. Qu'il me soit permis toutefois...
soyons sérieux, de modérer mon enthousiasme. Car il m'a semblé, cher Bernard, qu'entre Jacques, ton personnage, et toi-même, il y avait des affinités de nature éthylique. Alors passe encore que tu aimes à biberonner, à picoler, à t'en jeter dans le cornet et à t'arroser la mule, mais que tu incites une jeune femme innocente et pure à s'arsouiller, se pocharder et à se prendre une casquette. Alors là, je crie à la souillure. Quant à toi, Isabelle, t'es une bonne chrétienne, enfin Hortense, le fait sous la glace. Et comme tu éprouves la tentation de te boissonner, de te rincer les amygdales au vin de messe, on l'a dit, oui, au vin de messe qui plus est du Saint-Julien 2000, comme tu la vois, ce pinardier bourru et bourré, alors là, je crie au sacrilège. Bernard, Isabelle, ne savez-vous point que l'ivrognerie tue dans les âmes toute pudeur, pour ne laisser rugir que les instincts de la bête? Regardez Daniel Morin. Mais pire encore, la pochardise ruine les facultés intellectuelles. Voyez Nangui, depuis qu'il a renoncé à la viande rouge en restant au gros rouge, quelle tristesse de le voir et surtout de l'entendre soliloquer, délirer, débitant des questions aussi interminables que labyrinthiques auxquelles il répond lui-même, sans tenir compte de ses interlocuteurs et interlocutrices éventuelles, puisque ces questions tortueuses incluent des réponses obscures qu'il est le seul à comprendre. Alors si j'en avais le temps, Isabelle et Bernard, je procéderais sur vous et toutes, moi aussi,
oui, c'est ça.
Le Saint-Julien 2000, je procéderai à un exorcisme.
C'est
exactement ça, très belle expression. Je procéderai sur vous tous à un exorcisme flash qui agit sur les âmes et les corps possédés comme le Saint-Citrate de Bétaïne agit sur les foies engorgées. Mais hélas, Nangui ne me laisse guère exercer mon sacerdoce, comme je l'entends. Je vais donc vous laisser cuver en vous souhaitant une bonne émission.
Merci à Berlin.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Ça s'appelle La Dégustation, c'est au Théâtre de la Renaissance. Isabelle Carré, Bernard Campan, ils sont parfaits, la plume et la mise en scène d'Yvan Calberac. On sent qu'il y a un partage dans tous les sens du terme, et je ne sais pas si c'est le vin ou en tout cas ce qu'il symbolise qui pousse à ce partage. Il y a beaucoup de scènes de partage déjà et de dégustation dans la pièce. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de fond, il y a beaucoup de tendresse. On le sent.
Mais ça, c'est aussi le talent du metteur en scène de savoir réunir, c'est comme un bon dîner, quoi, pour faire un bon dîner, pour que tous les convives s'entendent.
Il faut faire le plan de table.
Ouais. Ben ouais, c'est ça. Et il a su, effectivement, Yvan, réunir une super troupe, quoi.
Qu'est-ce qu'elle porte comme valeur pour vous, cette pièce, justement? On a tous droit à une seconde chance?
Oui, ou la tolérance, l'ouverture aux autres. Je trouve que, en fait, ça produit un peu le même effet, cette pièce, que quand on regarde un film de Capra, on a envie d'aller vers les autres.
Ouais, la vie est belle, ouais.
Ouais, la vie est belle.
Ouais, ouais, un peu la solidarité, l'entraide. Je pense à ce film où j'ai trouvé formidable, Le Grand Bain, où c'est tous ces éclopés qui, ensemble, arrivent à faire quelque chose, quoi. C'est un peu ça aussi, c'est se rassembler et s'entraider entre personnes bancales.
Les gens différents, ça peut être aussi une aide.
Puis réhabiliter l'alcool qui est tellement décrié.
C'est vrai. Surtout le message que je vais retenir.
Et puis le personnage de Steve, quand même, qui a un bracelet électronique et qui est finalement celui qu'on exclut de la société, ouais, et qui pourtant va favoriser le lien. Mm-hmm. C'est lui quand même l'adjuvant de cette histoire qui fait que le rapprochement peut exister.
Et c'est très beau ce rapport en fait de père-fils qu'ils ont, Bernard et Munir. Il y a vraiment une transmission là. Mmh.
Voilà, dans la vie, il a 25 ans, 26 ans, voilà, j'en ai 60 avec Mounir, tout ça se recrée, c'est un petit miracle, hein, ces cinq là.
Tout part de ce qui pourrait être appelé la naïveté d'une généreuse paroissienne qui veut aider son prochain et on se dit OK, elle va l'aider, mais il va voler dans la caisse, il va voler des bouteilles de vin, ouais. Il a la suspicion qui se lit sur le visage aussi bien du personnage d'Éric Villard que le vôtre. D'ailleurs, on se dit, ok, il va pas être bien accueilli celui-là dans son stage.
Il faut qu'il fasse ses preuves et effectivement, il va aussi.
Quand vous quittez la boutique, vous laissez pas la caisse accessible.
Voilà.
Ainsi de suite, quoi.
Je me méfie. Le personnage se méfie, mais justement, c'est ça qui est beau, c'est que
tous les clichés tombent petit à petit. Ouais.
On en reparlera. La musique est présente dans cette pièce avec Sidney Béchette, mais également dans vos vies. On en parlera avec la bande originale de vos vies juste après Guillermo Guy. Ah, oui.
Merci, ça va les amigos?
Bah oui.
Ah, vous savez que je parle jamais de politique? Alors j'en aurais des choses à dire sur mai 68. Enfin, c'est
trop tard.
Bon, là, j'ai regardé un peu le dernier rapport de la Cour des comptes.
Waouh!
Vite fait, ils m'ont dit, Ernesto, tu veux pas vérifier 2-3 calculs avant le public? C'est des gentils à la Cour des comptes, hein, mais c'est les branleurs, ils sont pas rigoureux pour un sou. Je suis parti en vacances un été avec eux, c'était un boxon. On arrive à Mykonos, un tel a pas calculé la log de la Zafira. L'autre veut pas payer l'all inclusive, soi-disant, parce qu'il a pris deux fois du ouzo. Enfin, je vous passe les détails. La Cour des comptes, je trouve, c'est bien généreux de leur confier des tâches sérieuses. Mais, soit, dans leur rapport d'hier, ils préconisent notamment d'augmenter le temps de travail des salariés de Radio France. Très bonne idée, rien à dire. Je trouve que ça joue beaucoup aux cartes dans les bureaux, vraiment. Et Leïla, vous allez me dire qu'avec l'argent que vous gagnez ici au poker, vous arrosez la police avec, pour votre trafic de poppers, que par ricochet, ça fait vivre la marée chaussée, que c'est réinvesti dans l'économie réelle, et que c'est toujours ça de prix sur ce que nous coûtent les gilets jaunes. Ok, Leïla, c'est pas le manque de culot qui vous étouffe, mais sur ces questions, comme la ligne intercité, ou les trains de nuit, la Cour des comptes évoquait un manque de moyens de l'État pour les faire fonctionner correctement. Et or, dans la même journée, j'entendais à la radio un médecin parler de l'incendie meurtrier de lundi et dire que la psychiatrie souffrait d'un manque de moyens. Et je me suis dit, vous trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup de monde qui manque de moyens? Ou ça vous a jamais frappé? Moi, j'ai 37 ans, je sais que je les fais pas, on va pas revenir là-dessus. Si vous voulez mon petit secret, vous avez qu'à acheter le livre que j'ai coécrit avec Grishka Bogdanov et la mère de Jeanne Calment. Ça s'appelle « Si on vous demande, restez flou ». C'est un très bel ouvrage, mais c'est pas la question. La question, c'est que j'ai 37 ans et ça fait 30 ans que j'écoute la radio. Il y a deux trucs qui sont constants en radio. Deux trucs. À la radio, t'as des pubs qui donnent envie de crever dans un plein d'essence, et à la radio, t'as des gens qui manquent de moyens. C'est les deux constantes. Vraiment, jamais de ma vie, j'ai entendu quelqu'un à la radio déclarer, nous, ça va, Imhotep, on a ce qu'il faut. Merci, prenez pour vous. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Jamais. Les flics manquent de moyens, les hôpitaux manquent de moyens, les écoles, les prisons, les transports en commun, les théâtres. Vous savez qui manque pas de moyens? Nous? À la bande originale, on est blindés ici et on paye même pas les invités. Ah oui, Isabelle, si vous croyez que vous allez faire un petit billet ici, bon, ouais, c'est mort, hein, on garde tout pour nous. Regardez, même la preuve, Daniel Morin, il a une autre chemise. Vraiment, je vous promets. J'ai fait des recherches sur Google pour nourrir cette chronique. Tu tapes manque de moyens, t'as un peu moins de 10 millions de résultats. Tu tapes Nagui cocaïne, t'en as que 33 000 alors qu'on se dit les Français sont inquiets pour vous, patron. Eh ben, pas tant que ça. Non, ce qui les inquiète, c'est que les services publics sont broke et j'ai pas de solution forcément. Je lisais ce week-end, je lisais le bouquin de Raphaël Glucksmann. Oui.
Oula.
Oui, j'ai lu le bouquin de Raphaël Glucksmann. C'est pas de gaieté de cœur, croyez-moi. On est forcé par la chaîne. À Inter, on est obligé de lire la nouvelle solution pour la gauche, sinon notre badge, il est désactivé, quoi. Je dis pas que c'est une secte au sens traditionnel, mais enfin, soit, je lisais que le manque à gagner de l'évasion fiscale en France, c'était 21 milliards d'euros de l'évasion fiscale. Avec 21 milliards d'euros, je me le paye enfin, cet orthophoniste, déjà. Avec 21 milliards, c'est qui devient champion de France? Guingamp. Parce que vous savez qui manque pas de moyens? Le PSG. Évidemment. Et c'est une estimation basse, 21 milliards. Parce que Raphaël Glucksmann, on le connaît, c'est un gentil, c'est un branleur, hein, c'est pas un rigoureux. Quand je suis parti en vacances avec lui à Mont-de-Marsan, il était sur les BNB au lieu de 4 jours, au lieu de fin. Je vous passe les détails. Allez, bonne émission, les amis, vraiment.
Bravo!
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?
C'est un fou.
J'ai tout compris.
C'est une chronique sponsorisée par articulation.com. C'est le nouveau sponsor.
Je vais quand même regarder le replay. Il y a peut-être 2-3 vannes qu'on a loupées au passage. La musique dont je vous parlais, la musique dans la vie d'Isabelle Carré et Bernard Campan. En fin des années 80, Isabelle Carré, vous écoutiez...
Elle a...
Jean-Jacques Goldman, vous réécoutez Jean-Jacques Goldman, vous pensez à...
Moi, j'adore Jean-Jacques Goldman.
Tout le monde aime Jean-Jacques
Goldman. Carrément, il nous manque, c'est bizarre qu'il ait disparu.
Il nous manque, enfin non, il est vivant déjà, arrêtez.
Non mais je sais, mais on le voit plus en fait.
Je trouve sa manière de dire laisser la place aux jeunes, il y en a d'autres qui sont mieux placés que moi.
Oui, c'est à la
25
place,
fois, mais... je lui ai même demandé de faire un petit clin d'œil en venant juste jouer de la guitare.
Tu
veux pas chanter, viens juste faire un petit riff de guitare. Et il m'a envoyé un mot en me disant
je veux 50 000 balles.
Il y a tellement de jeunes guitaristes qui jouent mieux que moi. Enfin voilà, mais il a toujours été comme ça.
Ouais.
Et alors vous, qu'est-ce que Jean-Jacques Goldman, c'est quoi? C'est des posters dans votre chambre des années 80?
C'est un petit peu Hortense quand même avec ce désir d'enfant.
Le personnage.
D'accord, non, moi là je vous parle des années 80.
Pourquoi vous écoutiez... années 80, moi j'adorais le. Je suis imbattable en fait en tube des années 80. pourrais vous prendre au quiz, alors quand vous voulez.
Ah ouais,
ouais. Alors, des menaces comme ça,
c'est le dire. Battle.
Attention. Il faut pas nous chauffer, oui.
Battle de tubes années 80. Ouais.
En blind test.
En blind test.
Trouvez n'importe quel tube des années 80. Ouais. Vous me dites pas au casque ce que c'est et on voit qui va trouver entre Isabelle et moi. Oh punaise, je suis énervé.
Ouais.
Il y a 10 grammes de coke à gagner.
Je suis énervé. Isabelle, je déteste perdre.
C'est vrai?
Je déteste.
Et pour revenir à votre vie, Isabelle, 87-88, il y a un moment un peu charnière qui est important. Vous tentez le concours du conservatoire, ça se passe pas très bien.
Non, rétamé au premier tour.
Waouh.
Et pourquoi, d'après vous, rétrospectivement, vous...
Bon, alors, je l'ai passé, j'avais à peine 18 ans, j'avais l'air d'en avoir 12.
Ouais.
Déjà, ça aide pas. Non, ça aide. Il faut revenir dans quelques années.
Ça vous aide aujourd'hui, Isabelle.
Oui, il paraît, mais
clairement.
Jeunesse éternelle.
Ah, bah oui,
vous avez 70 ans.
Vous avez
à
20...
peu près.
vous êtes la future Jeanne Calment, vous avez 20 ans quand on vous voit. Non, mais c'est dingue.
Donc, échec au conservatoire, mais il y a quand même une bonne nouvelle très rapidement après, puisque vous passez votre premier essai pour le cinéma.
Voilà, et je suis prise pour jouer la fille de Daniel Auteuil dans le film de Colin Serrault.
Romuald et Juliette.
Voilà, où a débuté aussi José Garcia, d'ailleurs.
Et vous décrochez aussi, dans ces périodes-là, finalement, la scène, que ce soit le cinéma ou le théâtre, ça commence à être lancé.
Oui, et là, je me suis sentie d'ailleurs beaucoup plus au théâtre, je dois le dire, accueillie, vraiment. Ouais. On m'a ouvert la porte, on m'a accueillie, on m'a dit « viens chez nous, il fait bon ».
C'était une nuit de Casanova, c'est ça ?
Une nuit de Casanova de Franco Cuomo, avec Jean-François Balmer, au théâtre du Rond-Point.
Et vous vous souvenez encore du texte, j'imagine ?
Oui, alors ça c'est pas compliqué, je disais trois mots en allemand à la fin de la pièce. C'était un tout petit rôle de figuration presque. Je disais oh la harre, la roue de la fortune, schön. Enfin voilà, quelques mots comme
Bravo.
Ça.
Bravo.
Quel était le déclic? C'est à l'école, c'est un prof de français qui
Pas du tout, je le raconte dans Les Rêveurs.
Ouais, dans Les Rêveurs.
Donc
qui sort en poche.
Qui sort en poche, exactement, là, qui est sorti depuis une semaine. Je raconte que c'est en fait dans un moment un peu compliqué de ma vie. J'avais 14 ans, j'étais dans un hôpital psychiatrique après avoir fait une tentative de suicide. Voilà, je vous dis tout, je vais plomber l'ambiance.
Non, c'est ce qui est écrit dans le livre, et on en a déjà parlé à ce micro.
Oui.
Tentative de suicide après un amour
déçu.
Déçu. Ouais.
Malheureux.
Puisque vous étiez le sujet d'un pari.
Une fragilité aussi un petit peu plus latente,
on va dire.
Oui,
on va dire qu'il y avait une base fragile.
Ouais. Il me manquait un petit matelas d'amour.
Mais vous étiez tombée amoureuse d'un garçon. Le garçon, vous avez fait croire à cet amour. Or, ce n'était qu'un pari entre potes. Genre,
voilà.
C'est très violent.
Et en regardant à la télé, une toute petite télé minuscule d'un de mes co-détenus, j'ai envie de dire, j'ai vu Romy Schneider dans Une femme à sa fenêtre. Et j'ai décidé de m'inscrire à un cours de théâtre. Comme quoi, des fois, dans les moments les plus sombres, c'est là où on trouve des solutions.
Mm-hmm. Attention, êtes-vous prête pour le blind test maintenant?
Oui.
J'allais
super vite, quoi.
C'est le principe d'un blind test.
En même temps, il a la réponse dans son casque avant.
Justement, vous êtes en train de vous confier.
J'ai balancé le blind test, il donne
la réponse. La musique est plus directe dans le casque.
Non. Vas-y.
Non, irrecevable.
Quoi?
Irrecevable, dit Bernard.
J'avais le casque et tout.
Macumba?
Non, mais ça, c'est image.
Non.
Ah non, début de soirée.
Début de soirée.
Rich Folie. Ok? 2-0.
Ah, 2-0. Non,
attends, on joue là.
J'ai trop lente en fait.
J'ai un mauvais joueur.
Tu vois, attends avant de la lancer parce qu'on n'est pas pressé.
Troisième extrait.
Ça, attends, qu'est-ce que c'est ça?
Ça, j'ai pas.
Le public, allez, aidez-nous!
Jean-Pierre François.
Quoi?
Jean-Pierre François?
Jean-Pierre François.
Je te survivrai.
Ah oui, je te survivrai.
Je suis assez fier de ne pas l'avoir reconnu, celui-là. Je te laisse.
Qui est mauvais joueur.
Non, c'est mon père, la belle-mère.
Ah non, moi, je suis incapable.
Allez,
moi, je veux pas, moi.
Queen.
Non.
Macumba. Macumba.
Là, c'est Macumba.
Toi, mon toi.
Ah oui.
Deux, je suis énervé. 2-2 entre Daniel et moi.
Bon,
allez, un dernier.
Moi, j'ai perdu.
Isabelle, c'est n'importe quoi.
Non, mais c'est comme tout le monde veut jouer au docteur.
Allez, un dernier pour la route. Vous savez pas, on est à égalité avec Daniel Morin, c'est impossible, on peut pas, c'est comme ça.
On danse?
Yann Folie? C'est ça?
Allez.
Yann Folie? Rêve au
C'est pas un tube, quoi.
Alors, c'est pas un gros tube.
Sachez-le, je viens de vivre un des moments les plus étranges de la bande originale. Juste avant, vous parliez d'une dépression, d'une tentative de suicide, et tout de suite après, on passe à Macumba.
Oui, c'était sans transition, j'avoue.
Je comprends pas.
Non, j'ai pas eu le Macumba, mais c'est celle que je voulais sortir.
Tout le monde a dit Macumba, mais on
était étrange. Pour Macumba.
Moi, j'ai Macumba à chaque fois, comme ça.
Bernard Campan, vous écoutiez dans les années 80. Voilà.
Je reconnais pas.
Phil Collins et Philippe Bailey, qui était l'ex de Earth, Wind & Fire.
Ouais. Mais ce souvenir de ça, c'était les boîtes de nuit avec les inconnus, la période galère, on va dire, voilà.
C'est la création des inconnus à peu près.
Bah non, c'est 89 les inconnus, ça c'est 85, je crois.
Il faut expliquer
86, 87.
Il faut expliquer comment inconnu, boîte de nuit, pour vous dans votre esprit, veut dire galère.
Bah parce que
moi je sais ce que ça veut dire, parce que c'est là où on s'est connus, mais
oui, bah oui, le ballon chaud 85 ou 86.
C'est ça, le ballon chaud,
c'est une émission que j'avais faite où ils étaient
animés, on était là,
c'est un bistrot,
moi. Oui, moi aussi.
C'était pas une émission,
t'as pas une période de perdition. Il y a même Daniel Auteuil qui chantait une chanson.
Exactement,
la chanson de Daniel Auteuil,
que Dieu me pardonne,
que Dieu me pardonne, stop, mais que la vie me pardonne, stop, si je ne sais pas toujours comment la vivre, non, stop, stop.
Mais voilà. Vous avez aussi écrit les paroles des chansons de Daniel.
Faut que tu viennes, on n'oublie pas les paroles, tu vas cartonner.
Donc voilà, on était amené à faire jouer dans les boîtes de nuit à 2h du matin parce qu'on n'avait plus de
théâtre. Pour bouffer, quoi.
Ouais, on était quatre, il y avait ces mois qui étaient avec nous, donc on s'appelait les inconnus, hein, je crois.
Même pas, non, c'est 4 quarts.
Ou les 4 quarts, peut-être, enfin voilà. Ah, et puis c'est ce souvenir de cette musique de Phil Collins et Phil Bailey quand même nous donner la pêche, et voilà, c'était un petit peu de lumière dans des moments pas faciles, quoi, en fait.
Et donc le groupe Crystal, c'était avant.
Ah oui, bien avant, bien sûr. Et après, elle connaît tout, elle connaît.
Le premier groupe de Bernard.
Et après, il y a le premier spectacle des Inconnus, Au Secours, Tout va bien.
Tout va bien, ouais, dans les années 87.
Au Théâtre Fontaine, c'est ça?
Ouais, je pense, ouais.
Là, juste à côté.
Premier show, tous ensemble sur scène.
Ouais.
Ah non, Théâtre Fontaine, pardon, c'est Rue Fontaine.
Et avec beaucoup de public ou pas, comment ça, est-ce que ça a
c'était
marché?
C'était des deux tiers de salle, et justement les Derman, non ça marche pas, et nous on dit bah si ça marche quand même, il y a moitié de salle, deux tiers de salle, ouais. Non, c'est pas, donc il a voulu arrêter, et c'est vrai que nous ça, on trouvait ça curieux, quoi.
Et comment vous vous retrouvez ensuite à Europe 1? Parce que c'est
Europe 1,
c'est un peu
c'est pareil, c'est Lederman qui a ouvert les portes d'Europe 1, et on était à un rendez-vous avec El Kabash. Je me souviens, et ils sont formidables, puis le Gabas, je n'étais pas très envie. Il dit, bon, Jean-Pierre, si Coluche te l'aurait proposé, tu l'aurais pas pris. Bah, peut-être pas. Ben voilà, t'aurais fait une connerie, tu vas faire la même connerie en les prenant pas. Voilà. Et puis donc, du coup, El Kabash a dit, bon, allez, je les prends.
Pour vous mettre l'après-midi.
Ouais, ouais.
Et c'était Laurence Boccolini qui était à vos côtés, non, c'est ça?
Ouais, Laurence qui faisait l'animatrice.
Ouais. Ouais.
Et c'est là que ça a commencé vraiment à prendre.
Non.
Toujours pas.
C'était un an quand même. Enfin bon, voilà. En même temps, fallait écrire des sketchs. Ça nous a
tous les jours.
Tous les jours, fallait écrire chacun un ou deux sketchs. Voilà. Bon, c'était un peu du voilà. Mais
c'est les tubes. C'est les tubes qui ont fait que ça a un peu décollé, les chansons.
Bah, c'est que 89, Seymour quitte le groupe. En fait, on se retrouve à trois. On est un peu désemparés. Les Darman nous dit, qui écrit les sketchs? On dit, c'est nous, alors continuez. Et là, on fait le Palais Royal et on fait le Télémagouille qu'on passe chez Drucker. Et là, la salle est remplie du jour au lendemain et c'est parti. Quoi. C'est le Télémagouille.
C'est le Télémagouille qui a été
le.
Et ça part de quelle idée, Télémagouille? Comment ça vous est venu?
Les jeux télévisés, quoi. Mais on l'avait testé à la radio à 4, on l'avait essayé, mais là, ça fonctionnait moins bien, quoi. Et à 3, voilà, de toute façon, c'est là où ça a fonctionné. Ça s'explique pas.
Non mais Bernard, on peut pas dire par respect pour ceux qui n'ont aucune émission de radio, aucun film, aucune pièce de théâtre, dire ça ne marchait pas, c'était un échec. Vous étiez quand même en train de faire votre métier.
Oui, tu veux dire que je suis un petit peu blasé là.
Non. exigeant sur le seuil de la reconnaissance.
Et Bernard, il est surtout très modeste aussi. Et ça, c'est une qualité que j'adore chez lui. Et c'est vrai, il a pas changé, c'est toujours le même. Qu'il ait du succès, qu'il en ait pas, il reste très modeste et très humble et il se remet tout le temps en question.
C'est vrai que j'avais l'impression que. Non, mais c'est vrai que c'était confortable d'avoir cette émission. On gagnait de l'argent, c'est vrai. C'est vrai que c'était quand même une période.
Et puis la preuve, vous testiez des choses qui ensuite sont avérées efficaces.
Oui, tout à fait. Ouais.
1996, Isabelle Carré, vous écoutiez Massive Attack. Avec le titre Mezzanine.
Mais. Celui-là
En fait, j'ai mis tout l'album.
Oui, mais okay. On n'a pas le temps. On va pas avoir le temps. Ça correspond à quel... Quelle période de votre vie personnelle, cette musique-là
vous, ben joyeuse, vous, apparemment.
Ouais.
Grosse patate.
Un peu dark.
Oh, parce qu'il y a des trucs hyper pêches.
Je sais pas qu'est-ce qui se passait cette année-là, en fait.
Mais quand
Léla, elle le sait.
Quand
ouais.
Vous, quand vous écoutez cette musique, vous voyez où
je sais plus, ça me rappelle, ouais...
La musique est toujours une espèce de madeleine. On se revoit dans un appart. On se revoit avec tel
alors,
ou tel
ami. Alors, à ce moment-là,
j'ai
déménagé tout le temps. Tous les 6 mois. J'ai eu du mal à trouver un vrai chez moi à propos d'appartements.
Ouais.
Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai une théorie sur les rôles, je les considère aussi comme des appartements.
Il faut des ondes, il y a des vibrations entre un appartement et une maison et soi. Pareil pour un rôle.
Oui, voilà, c'est ça. Et je me dis, je suis jamais jalouse ou aigrie ou triste quand j'ai désiré un rôle et que finalement je l'ai pas et que c'est une camarade qui l'obtient. Parce que je me dis, c'est comme les appartements. Voilà, elle avait un meilleur dossier, elle est passée avant moi.
Il n'était pas pour
mais
moi.
Mais ça veut pas dire que j'aurai pas un bon appartement plus tard.
Ouais. Et bien là, votre appartement de l'époque, c'est un appartement quand même difficile, un peu douloureux. C'est La femme défendue de Philippe Harel. Mm-hmm. Un tournage un peu plus compliqué, un peu différent parce que...
Je suis seule à l'écran, en fait, face caméra. Et donc, il n'y a pas de contre-champ. Et la nuit, je rêve de quoi ? De contre-champ. Je rêve que la caméra se retourne sur Philippe Harel. Mais c'était une expérience géniale parce qu'en fait, ça m'a appris à écouter. Souvent, quand on joue avec un partenaire, voilà, on sait qu'il va y avoir le chant contre chant, effectivement, et que quand vous vous taisez et que l'autre parle, ça va être sur lui.
Mm-hmm.
Donc,
forcément.
On est beaucoup moins, pas forcément,
mais. Il y a des plans d'écoute.
Mais être complètement sur vous, alors qu'il y a une réplique en face, c'est quand même très, très rare. Et du coup, ça m'a appris ça, ouais, à penser que l'écoute est aussi importante. Et
le non-jeu aussi, vous parlez du non-jeu.
Oui, c'est-à-dire que c'était, moi, dans mon désir le plus fou, je voulais que ce film soit un documentaire, enfin, quoi, que les gens se disent, c'était sa copine, sa petite copine qui l'a filmé, dans l'intimité, et c'est pas un vrai film, c'est un documentaire, quoi. Et j'avais envie d'être dans une vérité pour le jeu, la vérité ouais. Du documentaire.
Ouais. Et ce film qui devait être un téléfilm, je crois, pour Arte.
Il est passé à 23h50 sur Arte, finalement,
fait
et a été choisi à Cannes, ouais,
à
dans
Cannes.
La sélection officielle, ouais. C'était assez fou. Je me souviens que Philippe Harel m'a appelé, m'a dit, t'es bien assise, là. Je dis oui, ben voilà, on va aller à Cannes dans la sélection officielle, la grande sélection. Et on s'est retrouvés tous les deux à monter les marches. C'était drôle parce qu'il y avait des immenses tables comme ça de conférences de presse. J'avais regardé ça la veille à la télé, ça m'avait foutu la trouille. Et on était tous les deux, enfin tous les trois avec Eric Assous.
Oui, parce que normalement, il y a toute l'équipe.
Toute l'équipe, voilà, là, il n'y avait que trois personnes.
Il y avait quand même une véritable impudeur dans ce film. Comment vous aviez vécu cette situation-là?
La scène de nudité, c'est pas ma scène préférée. C'est vrai que ça se voit d'ailleurs, je rougis, je tremble, je suis très mal à l'aise.
Ça aide au documentaire.
Ça aide au documentaire,
ça aide à la vérité.
On me voit rougir, ouais, c'était pas mon moment préféré.
Et être à Cannes sur un écran de 100 mètres carrés de toile devant tout le métier, c'est.
C'était d'autant plus impressionnant que quelques semaines avant, j'avais été en tournée avec le Malcourt d'Audiberti dans cette même salle et que j'avais entendu 2-3 fauteuils qui claquaient.
Donc des gens qui partaient.
Des gens qui partaient parce qu'il y avait la tempête dehors et tout ça, c'était un peu spécial. Et je me suis dit, ça y est, je vais réentendre les sièges qui claquent. Ça va être atroce. Et non, ils n'ont pas claqué.
Non, clairement pas.
Et puis surtout, c'est un rôle qui vous a montré aussi différemment, avec les propositions derrière.
Oui, c'est-à-dire que j'avais pas du tout envie de faire la série des Rocky avec Agnès de l'École des Femmes. Et j'avais très peur de ça, en fait, de qu'on me propose toujours les ingénues, blondes, à lunettes, un peu l'air sage, comme
douce,
ça.
Douce, ouais.
Et ça m'intéressait pas, en fait, de rester dans ce registre-là, d'être une vieille vieille petite fille, jeune première toute ma vie. Et du coup, ça m'a bien aidé à proposer autre chose. Ouais, ça c'est vrai que on a toujours nous les acteurs beaucoup de reconnaissance pour les metteurs en scène qui vous donnent confiance pour la première fois, qui vous font confiance pour la première fois à changer de registre, comme ça a été le cas par exemple pour Bernard avec le film de Zabou Breitman, quoi. Se souvenir des belles choses, c'est la première fois qu'il changeait de registre. Et ça, on a toujours beaucoup de reconnaissance.
En 96, Bernard Campan, vous écoutiez.
Oh, j'adore cette chanson.
Est-ce que ce monde est sérieux?
La corrida,
c'est beau, ça.
De Cabrel.
Ouais, c'est beau.
Ouais. J'aime beaucoup Cabrel. Toujours beaucoup. On vient du Sud-Ouest d'ailleurs,
à
tous les deux.
À Stafford et à Agen pour nous,
ouais,
forcément,
voilà,
en Lot-et-Garonne.
Bah, non,
mais... enfin, c'est pas une chanson aussi qui le propos est clairement anti-corrida.
Oui, mais peut-être c'est peut-être aussi les premières fois où je me suis posé des questions sur le végétarisme, sur manger ou non de la viande, sur la condition animale, sur et je trouvais la chanson magnifique. Voilà, ouais. C'était 97, c'est ça,
96 parce
ouais,
que.
Ouais, mais 97, ouais.
Et vous recevez des mains de quelqu'un qu'on connaît bien, la victoire des humoristes de l'année. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment sur scène?
Et c'est Nagui
qui vous remet le prix.
Mais tu peux pas savoir. On a une il faut qu'on se voit.
Hein.
On a eu il y a un matelas d'amour là, tous les deux aussi, je sens. Ouais, vous vous souvenez de ce moment sur scène?
Victoire.
Non.
Ah, c'est vrai. Mais dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut être aussi un peu anesthésié.
Voilà,
en fait.
Moi, je déconnecte parce que c'est.
Parce que
je
c'est
sais
beaucoup
pas,
en fait.
Ouais, je sais pas. Hein,
vous voyez même pas.
Je suis un peu anesthésié. Ouais.
Puis des souvenirs avec Nagui, quelquefois on a oublié.
Oui.
On a plein d'autres souvenirs.
On a plein d'autres souvenirs. Mais plutôt boîte de nuit.
Plus perso, exactement.
Que remise de trophée.
Exactement. Mais là, c'était les trois qui recevaient, et puis il y avait Pulcino, la télé des inconnus, qui avait cartonné.
Ouais, mais c'est la période où on avait fait les trois frères aussi déjà. Donc on avait
le César,
on avait les Molières, voilà. Et c'est vrai qu'on était gâtés là.
Grosse
c'était
année.
Un peu c'était un peu l'apogée de tout ça.
Et c'est inquiétant quand on reçoit autant de distinctions. On se dit, ça sent le sapin. Après, derrière, ça va être plus compliqué.
Non, ça c'est plutôt, j'imagine, quand c'est les Césars d'honneur, que ça sent le sapin, mais ça viendra peut-être un jour.
Non, mais on redoute pas un engouement éphémère. On redoute pas un engouement un peu éphémère qui fait que derrière, on va être passé de mode.
Non, je me suis jamais dit ça. Par contre, je m'aperçois que c'est difficile de savourer les bons moments, ces moments-là, comme parfois, même sur scène, des applaudissements. Souvent, je me dis, voilà, profite. C'est difficile de savourer les choses.
Il y a même des moments où vous êtes gêné. J'ai vu au moment des rappels, ça, vous, pour la dégustation, vous étiez gêné.
Parce que je t'ai vu dans la salle.
Non, t'étais gêné.
Oui, parce que le boulot est terminé. Donc on n'est plus le personnage.
Ah, c'est pas gêné, c'est feignant, vous voulez rentrer chez vous.
Foutez-moi la paix.
Non, mais c'est vrai que là on se prend la main, ensemble.
Voilà, il y a deux genres de comédiens. Il y a celui qui ne prend pas la main de ses autres partenaires et qui regarde le public en prenant tous les applaudissements pour lui. Voilà. Il y a celui qui justement fait des accolades et puis l'autre qui fait le signe de arrêter quoi.
Mais il faut dire que parce que c'est vrai qu'il y a, enfin ça fait prétentieux de dire ça, mais il y a beaucoup de rappels.
Mais je vois, oui, je sais. Il faut les calmer.
Puis c'est comme
mais la police est venue évacuer. Hein,
c'est comme quand quelqu'un vous dit en gros je t'aime dans les yeux, quoi. Finalement, ces applaudissements, ça peut être aussi.
Comme les compliments. Délicat. Je dis souvent, je supporte ni les critiques, ni. Enfin, j'y supporte mal, quoi, les critiques. Ni parfois les compliments. C'est difficile, les compliments. Hein. Ouais. Donc, voilà.
Et pourtant, ça fait du bien quand même. Hein.
Oui, je préfère quand même.
Franchement.
Oui, si j'ai à choisir, je préfère.
Pour l'information, vous avez reçu, vous, un César aussi pour se souvenir des belles choses. Isabelle Carré, vous aussi, vous avez eu César. Ils sont où d'ailleurs ces objets?
Pas pour
se souvenir. Non,
enfin, j'ai eu la moitié de César.
Je l'ai partagé avec Bernard. Il a eu la moitié.
La dégustation au théâtre de la Renaissance. Nous allons parler avec Bénédicte Anne. Bonjour, Bénédicte. Merci de venir à ce micro. Vous êtes auteur et coach. Vous avez écrit Le prochain, c'est le bon, trouver l'âme sœur en 5 étapes. Ou encore, une fois c'est décidé, j'arrête d'être célibataire sans conseil pour trouver l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'emploie plus l'expression vieille fille, vieux garçon?
En fait, ça vient du passé parce que le vieux garçon et la vieille fille, c'était l'enfant qu'on faisait à 40 ans pour être le bâton de vieillesse. Oh. Et l'avenir, c'était soit je m'occuperai de mes parents, soit je serai curé, soit rien. Soit je me marie, soit je suis une personne de mauvaise vie. Donc le bâton de vieillesse, en fait, c'est l'ancienne vieille fille, l'ancien vieux garçon.
Et qui commence à quel âge alors? C'est quoi? C'est la quarantaine?
Je dirais que ce sont des gens qui à l'époque vivaient toujours chez leurs parents. Aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment parce que être célibataire, c'est plus une honte. Mais ce qui compte, c'est pas tellement l'image de la société, c'est comment les gens se sentent. Et dans cette pièce, justement, ce qui est intéressant, c'est que si on fait un arrêt sur image, c'est exactement le scénario d'une histoire qui arrive à plein de gens. Monsieur et madame ont vécu quelque chose de douloureux il y a un certain nombre d'années. Ils sont restés bloqués dans le passé. Et ils avancent, en fait, en étant dans une espèce de loyauté à se passer. Et ils ne s'autorisent pas. Exactement comme vous ne vous autorisez pas toujours à accueillir tous les compliments. C'est quelque chose que j'ai pas droit. Et ça, c'est pas lié à la société. C'est lié au programme de l'enfance. Et si on m'a dit tout petit que de toute façon, j'y arriverais pas, j'avais pas la place, etc. Et que personne ne voudrait de moi parce que t'as vu le nez que tu as, t'as vu la tête que t'as. Mais qui voudrait se marier avec toi, ma pauvre fille? Tu sais pas cuisiner.
Mais alors donc,
ça laisse des traces.
Ça veut dire ça veut dire que le célibat cache toujours quelque chose de douloureux dans le passé.
Oui. Enfin, en gros, c'est pas tellement le célibat, c'est les échecs que j'ai vécus en amour ne sont pas dus au hasard. C'est pas par hasard que ces deux-là restent coincés. Et se consolent, bien sûr, avec les moyens du bord.
Oui, mais c'est aussi difficile de rencontrer la bonne personne, l'âme sœur. Moi, je me rappelle, j'ai eu une période comme ça où j'étais un peu solitaire. Ça a duré quelques années.
Là, je me trouve une belle image de moi.
Mais, en tout cas, une image honnête. Oui.
Mais c'était pas évident, quoi. Et j'arrêtais pas de me dire ça. Je me disais, mais c'est de ma faute. Ben non, en fait, c'est dur, quoi. C'est compliqué de trouver la bonne personne.
Oui. C'est ça, c'est la société qui fait que donc il y a non seulement ma problématique qui fait que j'ai pas forcément le droit d'être plus heureuse que papa ou maman, ou qui pour me donner la vie, ces deux-là, ils ont pas vécu une histoire très cool, et il y a la réalité de la société qui est devenue une jungle.
Oui, mais on peut pas, alors vous avez publié le prochain C'est le bon, trouver l'âme sœur en 5 étapes, il n'y a pas de recette magique?
Si, il y a la recette pour éviter de se faire avoir, pour éviter de souffrir, pour éviter les histoires qui sont condamnées. Et comme il y a beaucoup de naïveté aujourd'hui, bizarrement, c'est qu'il y a toutes les informations et beaucoup de femmes sont très naïves. Et donc, le garçon leur dit « Ah, je veux construire, je veux un enfant avec toi. » Bon, d'abord, on couche, puis après, on réfléchit. Et puis, le lendemain, le garçon disparaît. Et quand on me raconte ça, je me dis « Mais c'est pas possible d'être aussi. » Et des hommes qui tombent amoureux, et puis on leur dit « Bah écoute, c'était bien cette nuit, mais je couche jamais deux fois avec le même homme. Donc, t'as été un super sextoy. » Et bizarrement, aujourd'hui, on a plein de gens qui vivent ça. Donc mes bouquins, ils servent à éviter les grosses conneries. Et du coup, je fais aussi des cafés de l'amour, des cafés coaching. C'est gratuit, j'en fais dans toutes les villes de France et francophones. Et j'aide les gens, en fait, à comprendre qu'est-ce qui fait que dans leur histoire amoureuse, ça a bloqué, à quoi ça correspond dans leur histoire d'enfance et comment faire, bien sûr, pour que la prochaine personne soit la bonne.
Et vous êtes en couple, vous?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Non, mais ça ne veut pas dire...
Non, je vais vérifier.
Pardon, mais l'histoire du couple, ce que disait Isabelle, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on est célibataire, on peut se demander ce qui cloche chez soi, mais on peut aussi se dire, en voyant les copines autour, qu'il y en a plein qui sont en couple, et franchement, c'est pas joyeux. Donc, dans ces cas-là, on préfère être tout seul que d'être avec quelqu'un qui nous accompagne mal. Donc, être en couple, c'est pas un signe de vitalité.
Être bien accompagné, c'est possible.
Oui, mais alors, je dis pas le contraire. Mais je dis simplement, pour éviter
alors,
de regarder de travers les célibataires en général dans la société, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont en couple et qui sont malheureux, qu'il faut arrêter de considérer que si on coche la case couple, on va bien, en fait.
Et des moments de solitude aussi, c'est nécessaire.
Ben ouais.
On peut vachement se construire aussi dans la solitude.
Introspection. Parce que solitude, ça a un côté. Moi, je dirais plutôt l'introspection, c'est de quoi j'ai envie. Et en fait, c'est la question de base. Est-ce que je suis bien dans mon couple ou pas? Parce que je coach aussi des tas de couples. On vient me voir avant le divorce. Donc je suis à la dernière ligne droite. Donc pourquoi est-ce que dans mon couple ça va mal? La plupart du temps, c'est pas que je suis malheureux ou malheureuse, c'est que j'ai choisi un partenaire qui va me faire revivre la même chose que ce pourquoi j'ai été programmée dans l'enfance. Et en fait, les deux sont en colère contre leur éducation et les deux règlent leur compte et punchent l'autre, alors qu'en fait ils ont le même besoin. Sauf qu'il y en a un qui dit même pas mal, rien à faire, je vais pas te donner ce que tu veux parce que je me suis habituée à ne rien demander. Et l'autre va dire est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Donne-moi encore un peu d'attention. Et il va donc trouver précisément le partenaire qui va lui faire revivre le même rejet. Donc en fait, ces deux-là, le jour où ils comprennent qu'ils ont tous les deux besoin d'amour, mais qu'ils s'expriment à l'opposé, ils se retrouvent, l'intimité revient.
Enfin, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'un couple
soit... C'est très simple, contrairement à ce qu'on croit. Une fois qu'on a compris le mécanisme...
Il y a aussi tout ce qui est, enfin, la différence qu'il y a entre compromis et compromission aussi au sein d'un couple. Chacun doit respecter l'autre et accepter ce que l'autre a sans chercher à le déformer ou à le faire à son image.
En fait, c'est une histoire de choix et de casting. Ça, vous connaissez bien le sujet. C'est-à-dire qu'au départ, je vais choisir quelqu'un qui va être la seule personne qui ne va jamais me donner ce dont j'ai besoin. Et c'est précisément cette personne-là qui va me rendre amoureux, je vais en crever, je vais traverser la ville ventre à terre, parce que ça m'érotise. Et pourquoi ça m'érotise? Parce que justement, je n'y trouve pas mon compte. Et quand j'y trouve mon compte, souvent j'ai l'impression que je m'ennuie. C'est pour ça que les gens vous parlent de la passion.
Ça commence à m'exciter un peu, cette émission.
C'est très bizarre, hein. Merci Bénédicte Anne. Je rappelle donc que vous organisez depuis 15 ans aussi des cafés de l'amour, rencontres chaque semaine à Paris, où vous proposez une discussion sur les thèmes du lien avec l'amour et le sentiment amoureux.
Café Valentin, le 13 février à l'Arbre à Lettres, à 19h30. Et j'en fais dans toutes les villes.
Veille de la Saint-Valentin, donc.
Ouais. La veille, exactement, pour dire aux gens que la Saint-Valentin 2020 sera pas aussi plombée que celle de 2019.
Vous faites rien pour le lendemain. Le lendemain, c'est la Saint-Claude, non? Faites pas un cap. Okay.
Oh, ça y est.
Tanguy Pastureau, vous allez nous parler du complotisme. Tanguy.
Oui, enfin, si les gens qui sont aux manettes de Radio France, mais au-delà du pays et de l'univers, ne coupent pas le son de mon micro. D'après une enquête IFOP, de plus en plus de Français croient au complot, Nagui, que l'homme n'est pas allé sur la Lune, que Nicolas Hulot est une abeille déguisée en mec, que les Illuminati ont infiltré la société. Je préfère pas en dire plus.
On en parle après les infos.
Oui.
Merci de nous rejoindre avec Leïla Kadour-Boudali, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Albert Algou,
bonjour
Tanguy Bassureau, Frédéric Sigrid, Guillaume Bourguise et nos invités Isabelle Carré et Bernard Campan.
Bonjour.
Ils sont à l'affiche aux côtés de Mounir Amamra, d'Éric Vielard, d'Olivier Clavery, dans une pièce signée, mise en scène par Yvan Calberac, ça s'appelle La Dégustation. C'est au Théâtre de la Renaissance, c'est une très 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 bonne pièce. J'espère aussi agréable pour vous à jouer que nous de la regarder, parce okay, que ça va vite, c'est drôle. C'est humain aussi, puisque on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, même si le caviste a pas trop envie de faire de nouvelles rencontres, même si la jeune Hortense n'est pas non plus, on va dire quoi,
la plus dégourdie.
La plus dégourdie, oui, c'est ça. On la sent maladroite avec les autres comme avec elle-même.
Empruntée, je dirais. Plutôt.
Elle a empruntée. Elle a envie d'avoir un bébé. Voilà, on sent que ça la travaille, mais elle est maladroite.
Ce
aussi.
Désir d'enfant avec l'horloge biologique qui tourne.
Ouais.
Et puis
elle va se faire draguer aussi par Éric Vielard, ça peut calmer ça. Parce que...
Par le libraire d'à côté, ouais.
La Dégustation, on va continuer d'en parler de cette très bonne pièce tout de suite après Tanguy Pastureau.
Ouais.
Tanguy, cette semaine, est parue une enquête sur le complotisme.
Oui, alors attention, on ne sait pas qui est derrière cette enquête. Le complotisme s'étend, Nagui, ça doit certainement profiter à quelqu'un. C'est une grande enquête IFOP qui a été faite. Mais qui travaille pour IFOP? Enquête menée auprès de 1506 personnes. Pourquoi ce chiffre? Et qui a livré ses résultats aux médias. Mais qui contrôle les médias? Le résultat, je peux l'analyser en 7 mots. On a complètement vrillé de la tête. Un 9% des sondés pensent par exemple que les Américains sont jamais allés sur la Lune. Ce seraient des effets spéciaux. Je rappelle qu'on était en 69. Un zombie dans un film, il fallait 17 heures de maquillage pour qu'au mieux il ressemble à Gérard Collomb quand il a mal dormi. La NASA dit que ces gens auraient fabriqué de fausses preuves. Et les types qui sautaient à 12 mètres de haut à cause de la pesanteur, non, fake news. Ils vous disent qu'ils devaient avoir un souci de digestion. On mange mal dans les fusées, hein. Donc des flatulences dans la combinaison sacrée de l'air, paf, ils s'envolaient. 17% des gens pensent que le gouvernement américain a été impliqué dans les attentats du 11 septembre. Petit mémo, à l'époque, le chef de la Maison Blanche, c'était W. Bush, le mec qui a failli mourir en 2002 étouffé en bouffant un bretzel. Il était tellement con que l'action de son cerveau n'allait pas jusqu'à ses mâchoires. Hein, ça sert à étonner, il peut juste se moucher. Comment est-ce qu'il aurait pu concocter le plus gros attentat du siècle? Il faut un minimum de structure mentale. Moi, je me suis arrêté au BTS. Je vois bien la différence qu'il y a entre moi et Ben Laden qui, à 14 ans, prenait des cours d'anglais à Oxford. Il pouvait hurler « Je vais vous anéantir, bande de fils de chiens » en 14 langues. Moi, dès le terminal de l'Eurostar, quand on me dit « Hello », je réponds « Non, non, celui de 9h52 ». D'après 23% des sondés, il y a des signes cachés dans les clips musicaux. Alors ça, c'est vrai. Celui de Joby Joba des Gypsy Kings il y a 30 ans, le message, c'était « N'ayez pas peur de porter la nuque longue ». Ça a plombé des milliers de plans sexe. La fille voyait le type débouler avec un mulet dans le dos, ce qui est la seule chose qu'ont en commun le zoophile et le gitan, elle se cassait. Ça a fait plus de tort à la natalité que 150 années d'IVG pour les Antilles. Mais le message caché des clips de rap californiens, c'est quoi? Il est important pour une femme de tremper chaque heure ses grosses fesses dans la piscine? Enfin, ça ressemble plus à un conseil déviant de Michel Simès qu'à un signe caché. Mieux, 34% des gens
gens pensent que l'accident de voiture de Lady Di était un assassinat masqué. Non, c'est juste qu'à l'époque, on pouvait rouler très vite à Paris parce qu'il n'y avait pas Anne Hidalgo. Ça va pas plus loin. En 2019, Diana, elle se serait tapée les bouchons tout le long des quais. Hidalgo a sauvé plus de vies que Superman dans les films. Elle devrait avoir le prix Nobel de la paix. Vous la mettez à la place d'Edouard Philippe en lui disant « Bébé, on te laisse la France, voilà les clés ». 10 jours plus tard, elle met les nationales à 3 km/h. Vous voyez des lombriques sur votre droite qui vous dépassent en faisant coucou avec leurs petits bouts. Enfin, il n'y a plus un mort. Enfin, selon 43% des sondés, le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher la nocivité des vaccins.
Alors, ce qui malheureusement pousse certains parents à refuser de vacciner leur enfant.
C'est terrible. Certains gosses tombent malades, ne peuvent pas aller à l'école. On doit rester à la maison, les garder. Toute la journée, il faut leur parler. On a l'impression d'être un maire de la Nièvre, obligé de se farcir Macron pendant 8 heures d'affilée, juste parce que Brigitte a mis de l'EPO dans son Benko avant sa réunion du grand débat national. Et le plus préoccupant dans cette enquête sur le complotisme, c'est que les 18-24 ans sont ceux qui y croient le plus. Nos jeunes. Enfin, c'est normal, quand on est jeune, on est crétin. Moi, à 24 ans, je pensais que le premier Louis Attaque avait révolutionné le rock français. Donc, on est là à se moquer de Maxime Nicole, Flyrider, le leader des gilets jaunes timbrés. Mais derrière des Flyriders, il y en a tout un 38 tonnes qui pensent comme lui. Ils se développent à la même vitesse que les Gremlins si le pape François leur jetait de l'eau à la face. Parce que Flyrider pensait que l'attentat de Strasbourg était une manipulation du gouvernement. Vous savez que Castaner avait rencontré le terroriste, lui avait dit « tire dans le tas, on parlera plus des gilets jaunes ». L'autre avait répondu « t'es sûr, parce qu'il y a d'autres moyens. Organise un comeback du groupe Réglisse, tout le monde sera en boucle là-dessus, ils étaient super, mets de l'huile ». Et que Castaner avait dit « m'en veux pas vieux, mais je préfère l'attentat, ça fait moins mal aux oreilles ». Et bah, selon l'enquête IFOP, 10% des sondés pensent comme Flyrider, que ça a été monté de toutes pièces par le gouvernement, que Macron et Castaner n'ont juste rien dit à Darmanin, rapport à son jeune âge, parce que déjà pour le Père Noël, il y a un mois et demi, ils hésitaient à lui dire la vérité, hein, que c'était les aliens qui filaient les cadeaux. Alors notre société est donc gangrénée par le complotisme. C'est grave. Et en même temps, comment en vouloir aux gens? Parce qu'il y a toujours eu des complots. Bien sûr qu'en 2014, c'est Piaggio qui a poussé Julie Gayet dans les bras de Hollande pour exploser les ventes de scooters. Un type en CDD, avec comme perspective unique le pôle emploi de Tulle, qui parvient à conclure avec une actrice, on y a tous cru, mais ça marche pas. La fois au mois ici, j'ai lancé mes clés de 2 euros à Alice Taglioni, elle m'a envoyé paître. Bon, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas réussi à les rattraper, qu'elle se les ait prises dans l'œil, mais bon. Moi, quand j'étais jeune, les gens sur les paquets de Marlboro me disaient qu'il y avait 3 cas dessinés et que l'argent des clopes allait au Ku Klux Klan.
Mais
non.
C'était une rumeur.
Résultat, moi, je fumais que des camels, persuadé que les gains allaient au chameau. Moi qui adorais les bêtes, je me disais, mais ça, si je fais une bonne action, certains potes fumaient des gitanes. On pensait que l'argent partait au sein de Marie de la Mer pour la maman de Kenji Girac, tu vois. D'ailleurs, peut-être au fond, on ne sait rien. On tire pas les ficelles, nous. C'est Castaner, Julie Gayet, les Gypsy Kings et les aliens qui le font.
Merci, Tanguy Passereau.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Parlons de choses plus intéressantes que le complotisme. Isabelle Carré et Bernard Campan sont dans La Dégustation, la pièce écrite, mise en scène par Yvan Calbérac.
Je sais pas si c'est Yvan qui l'a écrite, la pièce.
Ouais. C'est les reptiliens.
Il y a un doute, là.
Ce sont les reptiliens qui ont écrit. Ouais. C'est au Théâtre de la Renaissance avec Mounir Amamra, Éric Vielard et Olivier Calavry. Ça pourrait être une comédie romantique, comme on les aime. Elle est plus profonde, je trouve, plus malicieuse aussi, parce que c'est pas uniquement un couple qui se rencontre façon coup de foudre à Notting Hill chez un libraire. Non, c'est un couple, et il y a ce troisième personnage qui va être extrêmement important, ce trait d'union qui est Steve dans la pièce, Mounir Amamra dans la vie, qui va être très important, d'autant qu'on a oublié de le souligner. Peut-être que vous allez être, on vous soupçonne d'être une vieille fille dans la pièce, Isabelle Carré, mais l'associatif est très présent, c'est-à-dire vous êtes de toutes les aides possibles et imaginables.
Oui, c'est assez surprenant d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand ce jeune homme débarque dans la cave de Jacques, où je suis en train d'acheter une bouteille de vin,
il est quand même assez inquiétant.
Ouais. Il vient de voler.
Enfin,
voilà, mais malgré tout, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et ça, c'est Hortense. C'est-à-dire que elle croit en l'associatif. C'est d'ailleurs mon cas. Et je tiens ça de ma grand-mère, qui s'occupait pas moins de 12 associations.
Ah oui,
ah, c'est un
quand même.
Hein.
Ah ouais.
Et non, mais c'est vrai, je crois que le tissu associatif, pour le dire comme ça, est peut-être plus efficace que la politique, même si il faut quand même aller voter. Mais c'est vrai qu'il y a des
il y a du frais qu'à se faire ou pas qui font.
Non, parce que on sait jamais. Je crois pas.
Il connaît pas le bon bénévolat.
Surtout en ce moment où il faut continuer à donner aux associations absolument parce que ça baisse et ça il faut surtout pas parce que elles font un travail incroyable.
Et vous, Bernard Campan, votre personnage, la voit comme une naïve finalement. Elle est dans l'associatif, elle est là pour aider les autres, mais vous êtes un commerçant.
Oui, lui, il est anticlérical. Il aime pas les curés. Il voit cette petite cato qui débarque, qui est un peu coincée, mais en même temps, non, c'est incompréhensible pour lui.
Non, puis il veut pas se faire voler, il veut pas se faire cambrioler, il veut pas se faire dépouiller de ses bouteilles de vin. Il a pas lui envie, il a envie d'être seul dans sa cave.
Sa bouteille de Romanée Conti.
Il a une bouteille très précieuse qu'il garde au coffre carrément.
Garde au coffre.
Une valeur sentimentale.
Voilà.
Enfin, Romanée Conti, c'est plus une valeur sentimentale.
C'est au-delà du sentiment là.
Voilà.
Toutes ces barrières vont tomber et voilà et il va penser autrement. C'est ça qui est bien dans la pièce, c'est qu'on s'ouvre un peu, on pense autrement en sortant.
La seule information qui soit erronée dans cette pièce, c'est la valeur de la bouteille de Romanée Conti partie aux enchères. Vous savez, en sortant de la pièce, je suis allé voir sur Internet, mais elle est partie à 400 000 euros.
Ah oui, il y a des
400 000 euros une bouteille. Et si ça fait plaisir au mec qui l'achète et si ça fait pas de mal à celui qui la vend, qu'est-ce que ça peut faire?
On va rester là-dessus.
Oui, qu'est-ce que tu veux faire?
Ça fait de mal à personne.
Voici le dépôt de bilan de Frédéric.
Alors, je dois vous avouer un truc, Nagui, je suis fasciné par vous.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, vraiment, je suis fasciné par vous, mais pas autant que je suis fasciné par Emmanuel Macron.
Ah, ça me rassure.
Et lui-même, je suis fasciné par Emmanuel Macron, mais pas autant qu'Emmanuel Macron est fasciné par lui-même. Hein, parce qu'Emmanuel Macron, quand il joue, il crie son propre prénom. Non, je suis fasciné par le sang-froid d'Emmanuel Macron. Depuis 3 mois, tous les samedis, t'as tout un tas de Français qui hurlent « Macron, démission !» un peu partout en France. Le mec, toutes les semaines, il se prend sa petite dose de haine comme ça. T'es vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On fait les courses. Ah, puis on va dire à Macron qu'on l'aime pas. On en est à l'acte 13 des Gilets jaunes. Le virus de la grippe a été mieux accueilli dans les foyers en hiver qu'Emmanuel Macron. Tous les week-ends, plein de Gilets jaunes un peu partout en France. C'est quand même le seul mec qui connaît les goûts vestimentaires de ces trolls. Moi, quand je lis une mauvaise critique sur Billet Réduc, je suis en position fœtale dans la salle d'attente de chez mon psy. Lui, ça le motive. Tu sais, le mec ne doute de rien. Il se dit, ok, je vais transformer cette situation. Emmanuel Macron, les pieds dans la merde, le lendemain, la science t'explique que ça fait repousser les cheveux. C'est normal, parce que lui, comme il l'a dit, il se voit comme la version 2.0 des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, il regarde les Gilets jaunes comme l'iPhone regarde le Nokia à clapet. Tu vois, parce que pourquoi perdre son temps à défiler en portant un gilet jaune quand tu peux porter un costard jaune? Le grand débat, les ronds-points, le porte-à-porte, les ouin ouin, mon frigo il est vide, la consultation de la société civile, tout ça, lui, il pense qu'il l'a déjà fait, mais en mieux. Ça s'appelle La République en marche. Tous ces gens qui hurlent « J'en peux plus, je touche 500 euros par mois, comment je fais pour vivre ?» Je suis bien d'accord avec vous, mon pauvre Jojo. Il y a trop de services publics. Et c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est parce que je le dis mieux que vous. On a beau reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, il sait parler aux gens. Hein, il sait avoir des conversations entre 4 yeux. Enfin, 3, hein, depuis les flashballs. Parce que vivre en France, ça te coûte un bras, temps plein, ça te coûte un œil. Finalement, pour être entendu, il faudrait que les Gilets jaunes aillent manifester tous les samedis à Caracas. Et parce que le président l'a dit dans un tweet, je salue le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté en criant Maduro démission. Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élection annoncée, dans 8 jours, attention, hein, nous serons prêts à reconnaître Juan Guaido en charge du Venezuela. En fait, Emmanuel Macron, il a aucun problème avec les ronds-points bloqués. C'est juste avec ceux qui sont trop proches de chez lui. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de la rhétorique de gauchiste. Là-bas, c'est pas pareil, voyons. C'est une dictature. Et ça, c'est vrai. La dictature, c'est mal. C'est ce que je disais hier à mon ami, le président égyptien, le généralissime Al-Sissi, hein, rien à voir avec l'impératrice, à qui la France vient de vendre des armes et aussi, accessoirement, parler des droits de l'homme, parce qu'on aime bien faire ça, et vendre des armes, et puis ensuite, oh, les droits de l'homme. La France, au niveau international, c'est Christine Boutin qui tient une maison close, en fait. Le général Al-Sissi qui a fait, attention, interdire la vente de gilets jaunes en Égypte. Ce qui est complètement con, parce que c'est pas le gilet jaune qui pose problème, c'est ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, pour plein de dirigeants politiques, aujourd'hui, le gilet jaune, c'est devenu une sorte de poupée maléfique. Ils croient que les manifestants sont comme ça. Non, excusez-moi, monsieur le président, c'est pas moi, c'est mon gilet. En fait, quand les CRS, ils te tirent une flashball dans la gueule, ils jouent à SOS Fantôme, tu vois. Jusqu'à maintenant, je comprenais pas, mais Castaner. Mais finalement, il a raison. C'est les gilets qui se jettent sur les flashballs. Ils sont là, C'est, nous, on visait le gilet, hein. C'est lui qui a mis manifestant entre nous et, c'est comme ça que ça se passe. La France, c'est le seul pays où il est plus facile désormais de démembrer un manifestant que de les dénombrer. C'est, alors attention. N'oubliez pas qu'on a élu Emmanuel Macron pour éviter le pire. C'est vrai. On aurait pu avoir Marine Le Pen. Et là, ça aurait été autre chose, hein, parce que là, je fais le malin autour de la table et tout, mais si le Front National avait été au pouvoir, là, c'était le contrôle de la presse, on imposait une vérité officielle aux médias, c'était des bateaux de réfugiés qui auraient jamais pu accoster, ça aurait été des perquisitions dans des journaux pour qu'ils donnent leurs sources, des arrestations préventives, des manifestants estropiés, et puis surtout, c'est le racisme! Le racisme! Et Dieu merci, Macron n'a pas ce genre de préjugés. Sauf, non, parce que j'ai pas fini. Non. Sauf si t'es gitan. Oui, parce que il l'a dit à propos de Christophe Détinger, le boxeur, là, dans sa vidéo où il s'excusait. Et Emmanuel Macron, il a dit en regardant la vidéo, il a dû être conseillé par un avocat d'extrême gauche parce qu'un gitan, ça ne s'exprime pas comme ça. Et moi, je me suis dit, mais comment ça s'exprime un gitan? Parce que moi, un noir, je sais, il y a les sketchs de Michel Leb, tu vois, j'arrive dans ma famille, tu vois, j'arrive à me retrouver.
On a des références.
Un arabe, tu vois, j'ai Jamel Debbouze, tout ça, je connais, mais un gitan. Je me dis, comment ça parle un gitan dans la tête d'Emmanuel Macron? Et je pense qu'à mon avis, c'est un truc comme ça, tu sais. Ce n'est pas ma faute, le flic il m'a cherché. C'est pour ça que je l'ai défoncé. Un truc comme ça, je pense. Il attendait ça. Et voilà, désormais, eh ben on a une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron. Et je pense que j'ai encore la semaine prochaine pour en parler.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Merci Frédéric Sigrist. Frédéric Sigrist qui est en spectacle absolument. Tu seras à Tigerie dans le 91 et le 29 mars prochain au Toboggan à Décines dans le 69. Parlons donc de la dégustation, cette pièce au Théâtre de la Renaissance. Le vin sert à désinhiber, il est quand même très présent aussi, c'est l'un des personnages du film, oui. De la pièce de théâtre, ces bouteilles de vin.
Indispensable, hein, pour rapprocher les gens. Non mais c'est vrai que... Et en plus, Yvan ne... Enfin, je crois qu'il boit un petit peu maintenant, mais il ne buvait pas d'alcool. Ah. Et voilà. Et il a découvert, en même temps il est végétarien.
Il est végétarien, ouais. Et il fait des vannes sur les végétariens dans la pièce. Vous êtes végétarien, vous aussi, vous faites des vannes. Enfin, ouais. Vous portez, entre guillemets,
voilà, parce que oui, mon personnage n'aime pas particulièrement les végétariens. Ouais. Par contre, il aime la biodynamie, oui. Voilà.
C'est vrai que c'est un beau vocabulaire aussi, le langage du vin. Parfois, c'est de la poésie, quoi. C'était assez théâtral, quand même.
C'est sexy. On parle de cuisses. Hein. Voilà, c'est ça.
Le mec bourré, il est moins sexy. Quand il parle,
c'est rablaisien.
C'est un révélateur, quoi. Mmh. Ça agit comme un révélateur dans nos relations. Mmh.
Cette pièce est au Théâtre de la Renaissance. Vous savez déjà si combien de représentations? Ça va jusqu'au mois de juin, c'est sûr.
Jusqu'au mois de juin. Ouais. Il y a deux représentations le samedi à 16h30 et à 21h, et le dimanche à 16h30 aussi.
Parfait, allez les applaudir, allez vous régaler, vous dégusterez vous aussi dans la salle, et puis ça fait, voilà, ça donne à réfléchir, y compris sur notre société ou les valeurs en tout cas humaines qu'il peut y avoir autour de nous. Vous avez des projets, on va reparler un tout petit peu quand même de votre livre, on en a beaucoup parlé à ce micro, on l'a aimé, il est publié aux éditions Poche. Ça représente quoi d'ailleurs quand on dit qu'un livre sort en poche? On se dit, il y a plein de gens qui vont être rêveurs avec moi.
Oui, ça c'est hyper touchant, et je suis très émue en fait de l'accueil qu'a reçu ce livre, parce que je m'y attendais pas. Je pensais que ça serait, voilà, un accueil un peu discret, poli, parce que je suis un peu connue et que il y aurait une petite curiosité comme ça, et ça a été un accueil tellement bienveillant, ouais, de la part des journalistes, des lecteurs.
Alors vous confiez, vous racontez tout de votre vie, de celle
alors
de votre famille.
Alors c'est un roman, c'est pas un récit,
d'accord,
ni un témoignage. C'est-à-dire que je suis partie de faits réels, mais tout ce que je ne savais pas, je ne peux pas chercher à enquêter, mais à suppléer en fait la mémoire par l'imaginaire et à m'égarer le plus possible, autant que je le pouvais, dès que je le pouvais, à aller dans la fiction.
Mais la toile de fond est quand même bien présente. Mmh.
Disons
et
que
touchante.
Quand ça parle de mon propre personnage, je m'autorise beaucoup plus à aller vers la vérité. Quand ça parle du personnage de la mère
dans la
et
vie,
du père,
voilà,
là, j'en ai vraiment fait des personnages et je me suis vraiment éloignée des faits réels.
Ça vous a donné envie d'écrire un nouveau roman, une autre fiction ?
Oui.
C'est déjà en cours.
Voilà, c'est en cours. Mais comme je suis assez lente, ce roman des rêveurs, j'en ai rêvé pendant 20 ans, dont le titre.
Vous n'avez pas encore mettre 20 ans.
Alors si je mets encore 20 ans, voilà. Ça veut...
Vous serez prochainement à l'affiche de L'Esprit de famille d'Éric Bénard avec Josiane Balasco, François Berléand, Guillaume de Tonquédec.
Oui, que j'ai tellement de plaisir à retrouver tous. Ça faisait longtemps, j'avais aussi travaillé avec eux, hein, comme avec Bernard. C'est vrai que ça a l'air de rien, mais de se retrouver, c'est vraiment quelque chose. Quoi. C'est... Surtout pour l'aventure qu'on a eue avec Bernard. L'aventure
c'est bien
d'en parler comme ça,
cinématographique. Ouais, ouais. La radio.
Tu précises, hein, cinématographique.
J'ai précisé cinématographique, oui.
C'est la nouvelle Isabelle Carré.
J'ai mis une petite montée.
Il faut se méfier ici.
Un vrai bonhomme, c'est un premier long que vous avez accepté de porter aussi.
Oui, là, j'ai vraiment un second rôle. Je joue la maman, mais le sujet me plaisait beaucoup. C'est sur l'injonction à la masculinité de certains enfants quand ils sont jeunes. On parle beaucoup de la pression que reçoivent les filles, les femmes, à être belles, à assurer, à être jeunes, machin et tout. Mais les hommes aussi, on subissent beaucoup de pression et c'est bien d'en parler aussi.
C'est vrai. Et vous savez qu'en 2020, vous serez déjà au Théâtre du Rond-Point.
Oui, 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 pour une mise en scène de Frédéric Bellier-Garcia. Bravo, vous êtes bien informé.
Détail
de Lars Norén.
D'accord, bien. Bernard Campan, vous, évidemment, donc, vous portez cette pièce à dégustation. Vous travaillez actuellement sur un projet de film, un nouveau film que vous voulez réaliser.
Oui, que je vais, en septembre, qu'on va faire avec, donc c'est coécrit, on est quatre à l'écriture, mais il y a Alexandre Jolien qui a inspiré l'histoire au départ et donc voilà, ce film s'appellera Presque et ça sera tourné en septembre.
Et c'est l'histoire d'un psy?
Non, c'est l'histoire d'une rencontre entre, Alexandre va jouer, c'est pas un comédien, c'est un philosophe, mais bon, il va jouer, c'est une histoire d'amitié, hein. C'est un peu notre histoire aussi, la fictionnée, on va dire, de deux personnes qui se rencontrent et qui partent un road movie, un peu, traverser la France, voilà.
Il y a eu une boulette commise par Isabelle Carré, sur Canal, qui a dit que vous vous retrouviez avec les inconnus pour travailler ensemble.
Mais ça s'est fait, en fait, c'était pour les enfoirés j'avais dit à Isabelle qu'on allait faire les enfoirés, mais il fallait pas le dire pour faire la surprise. Et en fait, pendant l'émission, quand on me pose la question, quand est-ce que les inconnus vont se remettre ensemble, Isabelle a dit ah bah oui, vous avez prévu un
c'est
truc,
mon côté
là.
Hortense.
J'ai dit non, mais voilà.
Ceci étant, n'ayant pas vu ce que ça donne, ça restera une surprise de vous voir aux enfoirés tous les trois là.
Ah ouais, mais on est super content de l'avoir fait. Ça a été une sacrée expérience. Cool. Pour nous trois, de se réunir pour la bonne cause et de faire un pot-pourri de nos chansons en 5 minutes comme ça, devant 15 000 personnes, c'était assez impressionnant.
C'est chaud. Ouais. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour nos fidèles auditeurs et donc fans d'Isabelle Carré, puisque c'est quand même la 147e fois qu'on la reçoit sur les derniers 6 mois. Des auditeurs qui ont donc découvert ce matin la nouvelle Isabelle, mauvaise tourneuse qui avale. Alors, je sens que ça va se finir dans une case sur le matelas d'amour de Monsieur Guy. Désolé pour Bernard Campan, qui tous les jours souffre de travailler avec quelqu'un qui connaît tout Molière par cœur, quelqu'un qui sait bien mieux que lui analyser et expliquer la pièce. Vous savez, Nagui souffre du même complexe à mes côtés, et finalement, il s'y est fait. On se fait à tout quand on dort sur un matelas d'amour. Désolé pour Madame Guy, qui, on l'a bien compris ce matin, est aimée tout le temps par son pervers de mari. Il paraît même que ça finit souvent à la cave sur le désormais célèbre matelas d'amour. Courage, Madame Guy. Et désolé enfin pour Jean-Pierre Madère, dont le mythique Macumba n'a pas eu droit aux honneurs du Blind Test. Un tube réclamé à corps et à cri par Leïla. Bon, vous connaissez mon grand cœur. Allez, cadeau. Bravo, Leïla.
Au théâtre de la Renaissance, Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amra, Éric Villard, Olivier Claverie, tout ça mise en scène, écrit par Yvan Calberac, une très bonne pièce. Lundi, nous recevrons Franck Dubox et FX François-Xavier Demaison. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Ce dimanche, dans Vous les femmes, à 17h dimanche, tu reçois
Miss Piaggio, on va recevoir Julie Gayet et ainsi que la délicieuse Marina Rollman.
Passez un bon week-end, tout de suite, les carnets de campagne. Bonne journée.
Merci Nagui, merci les amis, à lundi.